VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du 10 mars 2015. Au sommaire ce soir.
Simone Gbagbo condamnée à 20 ans de prison, ses avocats vont se pourvoir en cassation.
Visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en République centrafricaine.
Au Nigeria, forte explosion à Maïdougouri et à Ngamdou dans l'état de Borno.
Le CICR s'inquiète d'une crise humanitaire généralisée dans la région du lac Tchad à cause des exactions de Boko Haram.
En Égypte, un bâtiment de la police dans le Sinaï a été la cible d'un kamikaze, au moins un mort et 24 blessés.
Colère de la Maison-Blanche après la lettre envoyée par les 47 sénateurs républicains aux dirigeants iraniens.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nathalie Barge, mais d'abord le journal.
En Côte d'Ivoire, la défense de Simone Gbagbo envisage d'introduire un pourvoi en cassation après la lourde condamnation ce mardi de l'ex-première dame par les jurés de la cour d'assises d'Abidjan. Madame Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011. Ses avocats ont dénoncé ce qu'ils appellent un procès politique. Jacques Aristide a joint l'un d'entre eux, Maître Rodrigue Diade.
Je ne suis pas surpris et en même temps je suis déçu parce que la justice ivoirienne n'a pas été à la hauteur des attentes. Elle a montré une fois de plus qu'elle était une justice aux ordres du pouvoir ivoirien. Et on pourrait dire à la limite que c'est carrément une justice des vainqueurs. C'est une décision politique qui a été rendue, ce n'est pas une décision judiciaire. Si ça avait été une décision judiciaire, Mme Gbagbo aurait été totalement acquittée. Parce que ce procès-là a permis la manifestation de la vérité. Ça a été un procès public et tout le monde a pu y assister, y compris les journalistes. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de fait précis reproché à Mme Gbagbo. Il n'y a aucun élément de preuve. Dans un procès pénal où il n'y a pas de fait précis, où il n'y a pas d'élément de preuve, on ne condamne pas.
Comptez-vous alors, Maître Dadjé, faire recours ?
Bien sûr, nous allons exercer le recours. On a 5 jours pour exercer le recours. Et je peux vous rassurer que les avocats de la défense feront bel et bien un recours contre ces décisions-là qui sont complètement aux antipodes du droit et de la manifestation de la vérité.
Maître Rodrigue Dadjé, l'un des avocats de Mme Gbagbo, était joint à Abidjan.
Des témoins rapportent avoir entendu une forte explosion dans la ville nigériane de Maïdougouri ce mardi. Selon un correspondant de la Voix de l'Amérique, l'explosion s'est produite peu après 16 heures, heure locale, et semblait avoir frappé une zone de marché dans la ville. Il dit que la police n'a pas permis aux journalistes de se rendre sur les lieux. Des témoins affirment également que Boko Haram a attaqué la ville de Ngamdou dans l'état de Borno mardi. Plus de 10 personnes ont été tuées selon Reuters. Rappelons que samedi dernier, plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 140 blessées dans des explosions à Maïdougouri.
En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a fixé le premier tour de l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les communales à la fin du mois de mars 2016. Joint par VOA Afrique, le président de la Commission, Balari Fofana, a confirmé ces dates et précisé qu'il n'y aurait aucun problème à tenir le second tour dans les 2 semaines après la proclamation officielle des résultats. Le chef de l'État, Alpha Condé, a assuré à plusieurs reprises que l'élection se tiendrait bien en 2015, alors que l'opposition redoutait qu'il ne retarde le scrutin à cause de l'épidémie d'Ebola. L'opposition craint que le président Condé ne cherche à s'accrocher au pouvoir.
Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée ce matin à Bangui pour une visite de 36 heures en République centrafricaine. Des rencontres sont prévues avec les autorités de la transition, les hauts responsables de la mission de l'ONU, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Rappelons que la RCA est confrontée depuis mars 2013 à un cycle de violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et de nombreux déplacés.
En Égypte, un bâtiment de la police dans le Sinaï a été la cible d'un kamikaze dont la voiture était bourrée d'explosifs. L'attaque s'est produite à l'aube ce mardi. Elle a tué un civil et fait 24 blessés parmi les policiers. Elle n'a pas été revendiquée immédiatement. Les militants islamistes sont souvent accusés d'être à l'origine d'attaques répétées dans le Sinaï. Ces attaques se sont multipliées depuis que l'armée a déposé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Une bombe artisanale a tué hier 3 soldats près d'El Arish.
Au Gabon, les usagers de la toile et du téléphone à l'international ont été gravement perturbés durant 24 heures, selon Gabon Télécom, qui dénonce un acte de sabotage. Les explications de Salwa Jafari.
Aussitôt sorti de la crise provoquée par une grève de 2 semaines, Gabon Télécom se voit contraint de s'expliquer de nouveau. Un nouveau problème, un acte de sabotage, selon ses dires. Une attaque qui a visé, selon le fournisseur d'accès Internet, un câble de fibre optique dans un quartier de Libreville. Vers 4 heures du matin dans la nuit du lundi, des individus auraient saboté le câble sous-marin SAT-3, faisant en sorte que le trafic international, l'Internet et les autres transmissions de données soient perturbées, explique l'opérateur télécom. Le rétablissement total du réseau devrait prendre 2 à 3 jours. Les Gabonais s'étaient déjà retrouvés quasiment coupés du monde durant 48 heures les 25 et 26 février, lorsqu'une grève déclenchée par une partie du personnel de Gabon Télécom avait interrompu la fourniture du service Internet.
Les écoles et universités de N'Djamena sont fermées jusqu'à nouvel ordre à la suite d'une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire qui a fait au moins un mort lundi, a annoncé mardi le gouvernement tchadien, et c'est l'AFP qui l'indique. Depuis le 1er mars, un arrêté du ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire oblige les motocyclistes à porter un casque et les étudiants dénonce l'augmentation du prix des casques depuis l'entrée en vigueur de cette mesure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Colère de la Maison-Blanche après la lettre envoyée par les 47 sénateurs républicains aux dirigeants iraniens. Le vice-président américain a vivement réagi ce mardi contre ceux qui veulent saper, selon lui, l'autorité de Barack Obama. Le point, Nicolas Pinault.
Dans un communiqué, Joe Biden explique que cette missive envoyée à la République islamique d'Iran est conçue pour saper un président en exercice à mi-chemin de négociations internationales sensibles. Elle est indigne d'une institution que je révère, tranche le vice-président américain. Dans cette lettre envoyée hier, les 47 sénateurs républicains avertissent Téhéran que tout accord sur le nucléaire iranien devra recevoir l'aval du Congrès à Washington, le seul à même de pouvoir lever définitivement les sanctions américaines. Ce texte est une mise en garde sans valeur juridique, avait répliqué dès lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui n'y a vu que de la propagande. Le département d'État a fait savoir que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, reverrait son homologue iranien dimanche à Lausanne, en Suisse, pour un nouveau cycle de négociations après celui de Montreux la semaine dernière.
Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a encore réagi aujourd'hui à cette lettre des 47 sénateurs républicains en disant qu'elle pourrait suggérer que l'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. S'adressant à la très haute influente assemblée iranienne des experts, il a dit que cette lettre était sans précédent et peu diplomatique.
Les forces irakiennes ont repris aujourd'hui la localité d'Al-Alam, située près de Tikrit, la cible de leur offensive actuelle pour déloger le groupe État islamique du fief de l'ex-dictateur Saddam Hussein. Nous voulons qu'Al-Alam serve de tremplin pour la libération de Tikrit et de Mossoul, a déclaré le maire de cette localité.
Accrochage aujourd'hui entre étudiants et policiers dans une ville du centre de Myanmar où les autorités ont depuis une semaine empêché les manifestants de descendre sur Yangon pour réclamer des réformes de l'éducation. Selon un des meneurs du mouvement, la police a arrêté une trentaine de personnes. Quelques heures auparavant, les leaders étudiants avaient dit que le gouvernement leur avait permis de se rendre à Yangon. On ne sait pas ce qui a pu se produire ensuite, donc au niveau des accrochages avec la police.
10 personnes, dont des héros sportifs français, ont été tuées dans un accident d'hélicoptère pendant le tournage de Dropped, un jeu de télé-réalité en Argentine. Parmi les victimes, la nageuse, championne olympique Camille Mouffa et Alexis Vastine, boxeur médaillé olympique de bronze, et la navigatrice Florence Artaud, surnommée la petite fiancée de l'Atlantique.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et à présent, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est donc la Minute Éco, ce soir avec Camille Gros-Didier.
Jusqu'à ce jour, des discussions soutenues se sont déroulées entre les décideurs africains et américains à propos des relations commerciales pour l'après 2015 entre Washington et le continent, indique la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, rappelant que la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique expire le 30 septembre prochain. Prolonger ou non la législation actuelle, et si oui, pour combien de temps et quel type de modifications y apporter, autant de questions qui se pose dans le débat de l'extension de l'AGOA. Le projet sénégalais d'autosuffisance en riz a trouvé l'adhésion du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, rapporte la presse sénégalaise. Nathalie Barge a joint le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, un des principaux acteurs de l'autosuffisance d'ici à 2017.
Il va falloir, je pense, des mesures fortes sur lesquelles, de façon, les gens de plus en plus sont d'accord. Lorsqu'on parle de consommer local, lorsqu'on parle de consommer national, on pense aussi aux milliers d'emplois qui seront créés. Et pour ça, je pense que chaque Sénégalais devrait avoir à cœur d'y contribuer.
Et puis, le gouvernement burundais a ordonné la suspension de la mesure de cession à la société Sino-African Trading and Investment Initiatives de la part de l'ancien marché central de Bujumbura, détruit par un incendie en 2013, indique l'agence de presse africaine. La cession de la place avait suscité une forte indignation de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui avait dénoncé l'irrégularité de la transaction.
Merci à Camille Gros-Didier pour la Minute Éco. Et à présent, les sports avec Nicolas Pinault.
On commence par du football en Europe. On joue ce soir les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Avec deux buts d'avance, le Real de Madrid reçoit Schalke 04. Les coéquipiers de Ronaldo peuvent légitimement entrevoir la qualification pour les quarts de finale après leur succès à l'aller sur la pelouse du Gelsenkirchen, 2-0. Autre rencontre, le FC Porto qui accueille le FC Bâle après le bon match nul obtenu en Suisse, 1-1 à l'aller. Football africain avec la CAN des moins de 20 ans au Sénégal, c'est journée de repos aujourd'hui dans le tournoi. Hier, dans le groupe B, le Ghana a bien entamé la compétition en battant l'Afrique du Sud par 2-0. La seconde rencontre du groupe s'est soldée par la victoire des jeunes Maliens face à leurs homologues zambiens 1-0, but du milieu de terrain malien Alassane Diallo à la 75e minute. Les hostilités reprennent demain avec la deuxième journée dans le groupe A, Nigeria-Congo et Côte d'Ivoire-Sénégal. Le Nigeria est en tête du groupe grâce à sa victoire 3-1 contre le Sénégal dimanche. La Côte d'Ivoire et le Congo comptent un point chacun après leur match nul, 1-1. Et puis quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain pour terminer. Atlanta a sèchement battu Sacramento 130-105 pour sa 50e victoire de la saison. Plus tard dans la soirée, Golden State a également décroché son 50e succès en battant Phoenix sur son parquet 98-80. Les Warriors sont leaders de la conférence Ouest. En revanche, Chicago fait grise mine. Les Bulls se sont inclinés dans leur salle 101-91 face à Memphis. La Nouvelle-Orléans a battu Milwaukee 114-103. Et je vous donne quelques résultats. Boston qui s'est imposé à Miami 100-90, Charlotte qui est battue à domicile par Washington 69-95, victoire de Denver contre New York 106-78, et puis les LA Clippers ont battu Minnesota 89-76.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Idrissa Seydou Dia, en votre compagnie, à présent, les dossiers du jour.
Côte d'Ivoire, la première session de la Cour d'assises d'Abidjan pour l'année 2014-2015, qui statuait sur le cas des accusés pro-Bagbo, s'est achevée avec la condamnation à 20 ans de prison de Simone Bagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien. Pour l'avocat de l'ancienne première dame, le droit n'a pas été dit. Les populations apprécient pour leur part diversement cette sentence au micro de Germaine Rie, le correspondant de la Voix de l'Amérique à Abidjan.
Après la matinée consacrée aux accusés pour livrer leur dernier mot à la barre, il a fallu encore 9 heures d'attente pour connaître le verdict condamnant Simone Gbagbo à 20 ans de prison. Les chefs d'accusation énoncés par le président de la Cour, Tahirou Dembélé, sont entre autres attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et troubles à l'ordre public. Un jugement que Maître Diraboul, l'un des avocats de Mme Simone Gbagbo, juge arbitraire.
20 ans, si ça repose sur des faits, si ça repose sur des preuves, nous pouvons accepter. Mais sur quoi repose cette condamnation de 20 ans? Ça a été fait à la tête du client. C'est quand même dommage et regrettable pour la Côte d'Ivoire.
Pour Maître Alain Bokola, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, la peine correspond aux fautes commises.
Nous n'avons pas été heureux de voir des frères devant la barre. Mais cependant, il y a eu plus de 3000 victimes en Côte d'Ivoire. On a même brûlé des personnes vivantes. Donc pour cette seule raison, je crois que l'État de Côte d'Ivoire que nous représentons, nous sommes satisfaits des décisions rendues. Parce qu'au moins, on a soigné l'impunité en Côte d'Ivoire de plus continue.
Cette sanction est diversement appréciée par les habitants de la capitale économique. Certains sont satisfaits du jugement.
Pana Aya, c'est dû à ce qui s'est passé qu'il a eu tout ça là. Ça fait mal, mais si on laisse toujours ça comme ça, ça continuera et ça sera l'éternel. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas été créée comme ça. Les victimes aussi ont leur droit de part quelque part aussi. Que nous, on doit déposer nos plaintes après.
Denis Bouville-Ludovic, à mon avis, les 20 ans sont petits. On devait donner plus que ça. Parce que elle a été très, 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 très mauvaise de la crise post-électorale. Elle a fait tuer des gens partout. Donc aujourd'hui, les 20 ans, moi, c'est trop petit pour elle.
D'autres trouvent la peine trop lourde.
Shérif Youssouf, c'est un peu trop, quoi. Puisqu'on parle de réconciliation, dès qu'on réduit un peu sa peine, ça peut nous réconcilier encore plus, quoi.
Conan Filon, de la mesure, on l'a déjà gardé beaucoup en prison. Il faut grasser un peu les gens, quoi. La vie continue. C'est pas prison seulement qui peut tout faire.
Pascal Afinguessan, président du parti pro-Gbagbo, a écopé 18 mois de prison avec sursis, tandis que Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président, est condamné à 5 ans. Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Le Comité international de la Croix-Rouge s'inquiète d'une crise humanitaire généralisée dans la région du lac Tchad, où des centaines de milliers de personnes fuient les exactions du groupe islamiste Boko Haram. La situation se détériore au Nigeria et dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun, déplore le CICR. Nicolas Pinot a joint Jean-Yves Clémenceau, porte-parole Afrique du CICR.
C'est une crise qui a une dimension régionale, qui ne touche pas que le Nigeria, mais aussi les pays voisins, le Cameroun, le Niger, le Tchad, où il y a de nombreux déplacés. Ces déplacés ont souvent quitté leur domicile sans rien. De plus, ils vivent dans des endroits où il y a peu de services de base, où les communautés résidentes sont déjà affaiblies et on a des soucis. On demande à ce stade surtout de pouvoir avoir accès sur place, donc on mène déjà de l'aide, des distributions de nourriture dans certaines zones et on aimerait avoir plus d'accès pour pouvoir venir en aide à ces populations.
Quelle est par exemple la situation au Niger ?
Alors au Niger, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a à peu près 100 000 déplacés, réfugiés du Nigeria dans la région de Difa. Donc c'est un poids lourd hein, pour les populations résidentes. Ces déplacés ont besoin de nourriture, ont besoin de biens essentiels de base. Et évidemment, c'est inquiétant. On est en train de mener une opération de distribution de nourriture pour 8 000 personnes. C'est déjà une contribution, mais ce n'est pas suffisant.
Et on parle beaucoup des réfugiés nigérians, mais y a-t-il également des déplacés internes dans l'un de ces trois pays, le Tchad, le Cameroun ou le Niger ?
Alors bien sûr, c'est toujours difficile de dire quelle est la nationalité des personnes. C'est une région où les frontières ont toujours été poreuses et vous avez des personnes de la même ethnie qui vivent de part et d'autre de ces différents pays. C'est toujours la conséquence évidemment du conflit. Les gens fuient la violence, essayent de se protéger, quittent les zones où il y a des combats et ça occasionne des déplacements.
Jean-Yves Clémenceau du CICR était joint à Genève.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Des opposants congolais étaient de passage à Washington, où ils sont venus discuter avec des partenaires, mais aussi arrêter des stratégies électorales. Après avoir bloqué la révision constitutionnelle et la modification d'une loi électorale qui pouvait permettre au président Kabila de rester au pouvoir, ils viennent de proposer un calendrier électoral et tentent maintenant de resserrer les rangs. Eddie Sango s'est entretenu avec l'un des candidats à la présidentielle de 2011 et qui pourrait bien se présenter en 2016, Vital Kamerhe.
Nous unir autour d'une vision commune, un programme commun de l'opposition. Et quand on a un programme commun, une vision commune, les personnes qui doivent concrétiser ce programme, leur choix devient facile. À ce moment-là, on parlera de la candidature unique de l'opposition, on parlera de qui doit faire quoi, dans quel domaine, et les gens vont se donner des garanties mutuelles tout en sachant que l'opposition n'a pas le monopole de l'expertise et de la connaissance. On devra puiser aussi dans la société civile et on pourra faire aussi comme le président Obama, pourquoi pas, s'il y a un monsieur qui a travaillé dans le temps, mais dont l'expertise est éprouvée et qui peut être utile pour la République, on peut faire appel à lui. Et la place de la jeunesse et de la femme dans tout ce que nous allons faire.
Vous avez vous-même été candidat en 2011 et en 2016, pensez-vous être aussi candidat ?
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'abord pour combattre, pour avoir un bon calendrier électoral. Il y aura certainement un temps où nous allons, nous tous, nous focaliser sur la question de la vision commune. Et certainement le temps de la candidature unique ou des candidatures va venir. Et à ce moment-là, je reviendrai vers vous, soit au téléphone, soit physiquement, et nous en parlerons. Mais ceci, d'abord, doit être la volonté de mon parti, la volonté de la coalition de l'opposition, mais surtout la volonté du peuple congolais.
Il semble que vous allez en ordre dispersé, parce qu'en ce moment même, le leader de l'UDPS, l'opposition historique Étienne Tshisekedi, demande un dialogue avec le gouvernement. Qu'en est-il pour vous ?
Quand un seul parti sur la multitude des partis de l'opposition prône une position, il ne faut pas dire que l'opposition est divisée. C'est une position qui n'est pas d'ailleurs en contradiction avec notre position, mais seulement nous considérons que ce n'est plus le moment de dialoguer avec le président Kabila. Pour le moment, l'enjeu c'est quoi ? C'est la démocratisation du pays, c'est l'alternance au pouvoir, c'est empêcher le président Kabila de nous distraire et de continuer après 2016. Je crois que nous devons tous nous effacer. Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, tout le monde, nous devons nous effacer au profit de l'avenir radieux du peuple congolais.
Et l'insécurité dans ce pays qui est instable depuis la guerre du Rwanda.
C'est une question de volonté politique.
Un mot sur les procès que vous avez en ce moment même sur le dos.
Nous avons agi en tant que président du parti politique pour faire rapport aux observateurs et ceci est protégé par la loi.
C'était Vital Kamerhe, reçu au bureau de la Voix de l'Amérique à Washington par Eddie Sango.
Et au Burundi, on se prépare pour l'élection présidentielle de juin, tout en se demandant toujours si Pierre Nkurunziza doit briguer un troisième mandat. Bien que le président sortant n'ait pas déclaré jusqu'ici sa candidature, les États-Unis et d'autres pays l'ont exhorté à ne pas le faire parce que cela violerait les accords de paix d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile au Burundi. Mais l'ambassadeur burundais à Washington a souligné que toute question électorale devrait être réglée par la constitution du Burundi. Lionel Gaïma.
Des milliers de Burundais ont pris part il y a 10 jours à un rassemblement organisé par le gouvernement à Bujumbura, la capitale. Que le président Pierre Nkurunziza brigue ou non un troisième mandat, certains citoyens ordinaires ne cachent pas leur inquiétude. Jennifer Itangishaka. Nous ne voulons plus fuir, nous sommes fatigués de guerre. Nous voulons quelque part où vendre en paix afin de pouvoir nourrir nos familles. De leur côté, certaines organisations de la société civile ont souligné que si M. Nkurunziza venait de se présenter à gagner, ce troisième mandat serait illégal. La confusion porte sur le premier mandat qui, selon certains, ne devrait pas compter parce que le président avait été alors élu par le Parlement et non pas au suffrage universel. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain David Gilmour soutient que, malgré toutes ces arguties juridiques, les accords de paix d'Arusha restent un élément clé d'une stabilité continue au Burundi. Au terme de ces accords, seuls 2 mandats sont permis. Nous espérons que l'élection présidentielle sera conforme aux accords d'Arusha, y compris sa clause sans ambiguïté concernant la limitation des mandats présidentiels. Et nous pensons que l'esprit de compromis, d'équilibre et de partage du pouvoir inhérent aux accords d'Arusha a été un facteur fondamental dans le progrès louable enregistré au Burundi. Cependant, l'ambassadeur burundais à Washington, Ernest Ndabashinze, estime que l'élection présidentielle au Burundi doit se tenir conformément à la constitution burundaise.
Arusha Accord was a step in the process of...
Les accords d'Arusha étaient une étape dans le processus de règlement de nos problèmes. Aujourd'hui, nous avons une constitution approuvée par les Burundais eux-mêmes. Donc, pour tout ce qui a trait aux élections, la constitution est tout ce dont on a besoin. Ainsi, toute référence aux accords d'Arusha est une erreur, parce que ces accords ne sont pas dans la constitution du Burundi. Sixte Vigny Nimuraba, un ressortissant burundais vivant aux États-Unis, pense, lui, que la vraie question, ce n'est ni la Constitution, ni les accords d'Arusha. Nous devons donner le pouvoir au peuple pour qu'il puisse lui-même décider pour qui voter. Mon inquiétude ici, ce sont les médias, le parti au pouvoir ou l'opposition qui pourraient influer sur leur choix. Lors d'une récente discussion sur les préparatifs de l'élection de juin, le sous-secrétaire d'État adjoint David Gilmour a déclaré que Washington s'est engagé à appuyer une société stable et démocratique au Burundi. 13 millions de dollars ont été ainsi débloqués, mais on continue de s'inquiéter de l'arrestation des journalistes, membres de certains partis d'opposition et autres personnes qui critiquent la position du gouvernement.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Notre sujet de cette semaine, les droits des femmes ont-ils véritablement évolué? À cette question posée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Nous écouterons aussi de la bonne musique rap. Yeah, yeah! Mais ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au 001 202 619 3140. Je répète, 001 202 619 3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! I let it go back to...
Et voilà, le monde aujourd'hui arrive à terme. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. À la console technique, c'était Michael Dubinski. À la présentation, Nathalie Barger, Idrissa Seydoudia. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.